Bonjour à tous, c'est Basile, stagiaire de 3e du collège Jean Giono. Aujourd'hui, je vous présente ma chronique sur le thème du basket en France. J'ai choisi de vous parler de ce sujet car je suis personnellement très attachée au basket et je veux vous montrer que le basket n'existe pas qu'aux États-Unis. Si vous ne vous y connaissez pas trop, je vais vous faire un petit récapitulatif du fonctionnement du basket aux États-Unis et chez nous. Aux États-Unis, la plus grande ligue est la NBA, National Basketball Association. Celle-ci regroupe les meilleurs joueurs de la planète et est une ligue fermée. Il existe aussi la NCAA, le championnat universitaire avec ses règles propres. Mais alors, qu'est-ce que cela a de différent avec la France ? Eh bien tout d'abord, tous les championnats de France sont reliés entre eux et ouverts. Ce qui veut dire que des équipes montent et descendent de championnat à la fin de chaque saison, opérant un renouvellement constant. On peut jouer au niveau départemental 3, 2 ou 1, puis régional 3, 2 ou 1, puis national 3, 2 ou 1, puis enfin Pro B et Pro A, l'élite française avec des équipes comme Monaco, Paris ou Lyon. Mais quelle est la dynamique du basket en France ? C'est une des questions que j'ai posées à François Hutin. Ancien joueur, trésorier du comité de basket des Bouches-du-Rhône, ayant occupé plusieurs postes en rapport avec le basket dans toutes les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la place du basket en France, de sa célébrité, parce qu'on entend beaucoup parler du basket américain avec la NBA, mais j'aimerais aujourd'hui mettre la lumière sur le basket français. Qu'est-ce que vous pensez de la dynamique et de la popularité du basket en France, surtout chez les jeunes ?
Au niveau de la fédération, on a atteint l'année dernière sur la saison précédente, sur la saison 2023-2024, la fédération, ils sont montés jusqu'à 765 909 licenciés, c'était un record. Quelques années qu'on bat tous les records. Au niveau du comité, nous on a réussi à battre un record historique pour le département des Bouches-du-Rhône à 13 000 licences, c'était jamais arrivé. On avait battu il y a 3 ans le record des 12 000, on a battu le 13 000. Cette année encore, on était en progression d'entre 5 et 10% au niveau national et au niveau du comité. Engouement pour les jeunes, eh bien, c'est aussi un peu. Bon, il y a aussi la NBA qui est la vitrine qui attire beaucoup les jeunes, mais ça a toujours été. Et ensuite, c'est surtout nos résultats au niveau des compétitions internationales, où on est toujours dans les meilleures nations en Europe. Et selon nos résultats qu'on a eu aux Jeux Olympiques, terminant vice-champion chez les femmes, chez les hommes, et en 3-3 chez les hommes, il y a un engouement qui s'est fait. Vraiment, le gros souci qu'on a actuellement, on refuse de licencier quoi. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent se mettre au basket et dans tous les clubs, le retour des clubs qu'on a eu en début de saison, parce qu'on fait beaucoup de réunions avec les clubs, et on les a questionnés, mais ils sont obligés de refuser du monde en fait. Surtout au niveau départemental dans les Bouches-du-Rhône, c'est un gros souci d'infrastructure en fait.
Donc oui, le basket français peut donc compter sur ce qu'on appelle l'effet JO. En effet, les JO 2024 en France ont entraîné une énorme vague d'inscriptions dans les clubs de sport en général, obligeant même certains clubs à refuser des licenciés par manque de place et d'entraîneurs. Qu'est-ce qu'en pensent les acteurs du basketball sur le territoire ?
Bon, il y a aussi la NBA qui est la vitrine qui attire beaucoup les jeunes, mais ça a toujours été. Et ensuite, c'est surtout nos résultats au niveau des compétitions internationales, où on est toujours dans les meilleures nations en Europe. Et selon le résultat qu'on a eu aux Jeux Olympiques, terminant vice-champion chez les femmes, chez les hommes, et en 3-3 chez les hommes, il y a un engouement qui s'est fait.
Bah, c'est vrai que je voulais vous amener sur ça, sur l'effet JO. Et que donc, en fait, il y a un énorme engouement qui nous amène même à refuser des joueurs. Est-ce que quand même le comité met en place des actions pour profiter de cet effet JO, ou est-ce qu'il laisse aller, en fait il n'y a pas besoin tellement l'effet est important?
Alors jusqu'à présent, dans les années, on n'a pas trop besoin en fait, d'aller chercher. Il y a des dispositifs qui existent, que ça s'appelle l'opération OBE, Opération Basket École. Et en fait, ce qu'on propose, que les classes qui veulent faire des parcours, des cycles basket, on propose d'associer un club. C'est un système et ensuite le club peut envoyer un intervenant pour les aider à préparer les séances ou même à faire les séances. Et quand les clubs qui ne peuvent pas le faire, n'ont pas les moyens, au comité, envoie un de mes salariés pour les aider à la mettre en place. Ce système-là, c'était pour aller chercher justement des jeunes dans les écoles. Mais en fait, le problème, c'est que maintenant, on est victime de notre succès, on a trop de monde. Donc on n'a plus trop besoin d'aller chercher du monde maintenant. Et on refuse, je crois, aux dernières estimations, on a refusé 500 jeunes sur le département depuis le début de l'année.
Malgré tout, la NBA reste largement plus populaire dans le monde, mais aussi en France, ce qui est finalement assez logique, au vu des moyens différents et de la médiatisation totalement différente des deux ligues. Est-ce que la Pro A a l'ambition d'un jour concurrencer la NBA ?
Donc vous êtes plutôt confiant pour le développement du basket en France et de sa popularité. Est-ce que c'est une question un peu utopiste, mais est-ce que vous pensez qu'un jour, des équipes françaises pourraient attirer plus de public que des équipes américaines ?
Avant, il y avait une grosse différence de niveau entre la NBA, même entre les nations même européennes. À l'époque, l'Espagne était bien au-dessus de nous. Maintenant, même au niveau de la NBA, on voit les résultats au niveau international, parce qu'on les rattrape, parce qu'en fait, il y a énormément de joueurs, maintenant beaucoup de joueurs français qui jouent bien. Et même la NBA, certains joueurs, de très bons joueurs, comme chez Galonier, ont dit qu'en fait, la formation française est reconnue dans le monde entier. La formation des joueurs en France est reconnue. Et on sort que des bons joueurs, et on sort de très bons joueurs qui maintenant jouent en NBA et qui sont draftés à un bon niveau chaque année. Quoi.
Peut-être que le championnat français n'est pas le plus grand, mais on peut voir que la France se développe très bien à l'étranger, avec des phénomènes comme Victor Wembanyama ou Alex Sarr, ou encore les magnifiques résultats aux JO. Sur quel axe s'oriente plutôt la fédération ? Développement en France ou à l'étranger ?
Alors, la mission première d'une fédération de sport, c'est d'amener des joueurs pour les Jeux Olympiques. En fait, tout est construit d'aller faire de la détection, aller chercher tous les potentiels dans tous les clubs, et faire de la détection, et ensuite, une fois qu'on a repéré tous ces potentiels, de les former. Ils sont formés dans les clubs, ensuite il y a des sélections départementales. Moi, j'ai un conseiller technique fédéral qui est en charge de la formation des joueurs et aussi des cadres, des encadrants. Et en fait, on va détecter les joueurs, on va faire les détections, on va repérer les meilleurs joueurs, les meilleurs potentiels, et ensuite, on va les former, nous, en sélection départementale, et ensuite ils peuvent rentrer ensuite au pôle régional pour l'espoir, et qu'ensuite aller à l'INSEP par la suite, et c'est là que vont sortir les meilleurs joueurs qui ensuite sûrement seront draftés aussi. Ça, c'est tout le circuit fédéral. Ensuite, il arrive aussi que certains joueurs n'arrivent pas à être détectés parce qu'on n'est pas infaillible non plus, soit formés dans certains clubs, dans des centres de formation, et ensuite puissent accéder à la NBA aussi sans passer par le système de formation français de la fédération. Mais le but premier d'une fédération, et notre but à nous, c'est de sortir les meilleurs joueurs, d'aller détecter les meilleurs joueurs, de les former, de les proposer, qui suit ensuite tout le parcours fédéral pour aller jusqu'à l'INSEP et pouvoir sortir les meilleurs joueurs pour les équipes de France. Là, moi, j'ai un joueur dans mon club qui n'a pas allé jusqu'au bout de tout ce que le pôle, et qui pourtant, qui s'appelle Ilias Camardine, qui a été MVP de...
Ah bah oui, je le connais, j'ai vu à la télé.
Ilias, je l'ai entraîné quand il était à l'école de basket. Il a réussi à sortir, à percer par un autre chemin. Mais en fait, le chemin normal, c'est le parcours de la Fédération de basket. Voilà.
Alors oui, le championnat de basket français n'est peut-être pas le plus suivi, mais le sport se développe petit à petit grâce aux différentes actions menées par les comités ou les clubs. Merci beaucoup à François Hutin pour ses réponses à mes questions. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe de Fréquence Mistral pour m'avoir accueilli pendant mon stage. C'était Basile, au revoir et faites du basket.
Alors, avant un complet au revoir, Basile, moi, à mon tour, je souhaiterais te féliciter pour tout le travail que tu as accompli cette semaine. On a tous été, j'avoue, bluffés. Je pense que les auditeurs se sont rendus compte de la qualité de ton travail. Alors, tu as choisi un titre pour sortir de cette chronique. De quoi s'agit-il ?
C'est la musique Road Game de Kavinsky.
Au revoir, Basile.
Au revoir.